BFM Business présente les experts de l'IMO. Marie-Cœur de Roy.
Et il est midi une sur BFM Business, l'heure des experts de l'IMO. Mais avant cela, un rappel des principaux titres de l'actualité. La prudence qui reste de mise sur les marchés, faute de visibilité sur le Moyen-Orient. Les principales bourses européennes sont tout juste à l'équilibre et le CAC 40 sous les 8000 points. Du côté du pétrole, le baril de Brent recule légèrement mais reste au-dessus des 107$. Stabilité également, mais à un niveau élevé sur le marché obligataire. Le 10 ans français au-dessus des 3,7% et le 10 ans allemand toujours au-dessus des 3%. En attendant de nouveaux développements donc sur le front diplomatique avec la visite de Donald Trump en Chine. Notez quelques indicateurs publiés ces dernières heures en France. D'abord, le retour de l'inflation qui se confirme. L'INSEE affirme que les prix à la consommation ont augmenté de 2,2% sur un an au mois d'avril, tiré par une forte accélération, évidemment, des prix de l'énergie et en particulier du pétrole. Retour de l'inflation et retour du chômage. Le taux de chômage repasse au-dessus des 8% au premier trimestre et on est au plus haut niveau depuis 5 ans. Allez, c'est l'heure des experts de l'IMO.
BFM Business, c'est toute l'information économique et financière gratuitement à la télévision.
Votre programme avec Bien Ici.
On est bien ici.
Trouvez votre futur logement par vie de quartier et temps de trajet sur bienici.com.
BFM Business présente les experts de l'IMO, Marie-Cœur de Roy.
Et les experts de l'IMO, c'est tous les jours à l'heure de votre déjeuner sur BFM Business. Une demi-heure pour parler de notre immobilier, de nos logements. Et comme tous les jours, ça démarre par cette séquence qui vous concerne, amis professionnels de secteur de l'IMO, le pro de l'IMO, des témoignages terrain de vos métiers qui nous intéressent aussi et qui vont intéresser nos chefs d'entreprise aujourd'hui parce qu'on va parler coworking. Mais attention, coworking haut de gamme, vous verrez ça dans quelques instants. Ensuite, retour en plateau pour le débat du jour. Ça faisait longtemps, mais revoilà notre baromètre Doxa Next City avec beaucoup d'enseignements toujours passionnants qu'on va décrypter ensemble pendant 20 minutes. Mais d'abord, c'est donc l'heure du pro de l'IMO.
Les experts de l'IMO, le pro de l'IMO.
Et on est en ligne avec Romain Potier, directeur général de Querc. Bonjour Romain.
Bonjour Marie.
Je dis bien, j'ai dit Querc, ça se dit peut-être Querc, je sais.
Ça se dit Querc, c'est la prononciation était parfaite.
Oui, bon bah super, génial. Donc voilà, c'était juste pour m'assurer de la prononciation. Merci Romain pour votre témoignage, non je plaisante. Donc je disais en préambule qu'on allait parler coworking haut de gamme. Je dis haut de gamme parce qu'effectivement maintenant, quand on est une entreprise, qu'on cherche du bureau flexible mais en même temps de qualité, bah on peut pas faire du petit coworking tout pourri et c'est à peu près l'état d'esprit de votre société. Et comment finalement vous vous adaptez à ces nouveaux besoins des entreprises? Et vous aviez justement une entreprise, un exemple particulier à nous raconter aujourd'hui, une entreprise qui vous a confié 10 000 mètres carrés de bureaux, c'est ça l'idée?
Exactement. Donc, pour donner un peu de contexte, effectivement, Querc, nous on est un acteur de coworking, on propose des espaces de bureaux sur le segment haut de gamme, donc on est essentiellement au cœur du 8e arrondissement et on s'adresse à une clientèle qui est je dirais parmi la plus exigeante aujourd'hui sur le marché, qui est composée de principalement de la finance et de la tech. Et nous, on a la spécificité chez Querc, historiquement, de proposer, en plus d'une localisation et en plus d'un design très travaillé, tout un panel de services qu'on opère au quotidien pour nos clients. Et ce sont des services qui sont inspirés de l'hôtellerie. Donc ça commence avec l'accueil et la conciergerie. On a aussi internalisé toute une offre de restauration avec différents formats. On a un restaurant gastronomique, on a des cafés Querc, on a de la restauration rapide. La partie sport et wellness également avec des salles de sport, des coachs, une programmation sportive, une agence événementielle internalisée. Bref, on a tous les services dont une entreprise peut avoir besoin au quotidien au bureau. On l'a internalisé et c'est ça qu'on propose à notre clientèle.
Mais pardon Romain, je vous interromps, mais ouais. En fait, c'est quoi la différence entre ce que vous proposez et puis des bureaux classiques où on a fait venir tous ces services dont vous parlez, effectivement des services de restauration, il y en a dans les entreprises aussi, des salles de sport, il peut y en avoir. Enfin voilà, c'est quoi la différence entre les fameux beaux 369 qu'on peut prendre quand on est une boîte et le coworking version Querc?
Alors il y en a deux. Il y a déjà le niveau de qualité de ces services où nous on va vraiment essayer de pousser l'expérience au maximum et de proposer des services qui sont aussi gratuits pour les collaborateurs comme des cours de sport qui sont assez rares. Et après nous pour le coup on est le seul acteur qui à internaliser l'intégralité de ces services-là et est capable du coup de faire des liens entre les différents services, d'animer les différents services les uns par rapport aux autres et d'avoir une connaissance client à chacun de ces interactions avec nos services qui soit personnalisée et ce qui nous permet aujourd'hui en fait de proposer un niveau de service qui est similaire à ce qu'on peut faire dans ce qu'on peut trouver dans l'hôtellerie haut de gamme voire de luxe.
Encore une fois, je repose ma question, Romain, vous vexez pas, mais quelle est la différence si moi je décide? En fait, est-ce que vous justement c'est quel type de contrat que vous signez avec l'entreprise précisément et en quoi ça diffère de ce qu'on peut faire aujourd'hui au-delà du côté haut de gamme et de ce que vous proposez sur la restauration, le sport, machin, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, en quoi c'est différent d'une boîte classique avec des beaux classiques.
Et déjà pour répondre à votre première question, c'est-à-dire que nous historiquement effectivement on propose ça dans nos espaces de coworking et la première question que vous avez posée c'était sur le nouveau type de contrat qu'on est en train de partenariat qu'on est en train de créer où on opère des bureaux en 3-6-9 classiques avec l'intégralité de nos services. Donc nous aujourd'hui on propose les deux et on a fait évoluer l'offre dans ce sens-là. Ensuite sur la différence d'expérience. En fait, nous, ça vient de retour de nos clients et de foncières. Aujourd'hui, la solution pour proposer tous les services qu'on propose, c'est de faire appel à des entreprises qui font uniquement un des services et ont pas de travail global de cohérence d'animation de ces services-là. Et ça, pour le collaborateur au quotidien. Ça permet pas d'avoir une expérience qui soit fluide et de faire les liens entre une information qui est donnée à l'accueil, qui est partagée au coach de sport et qui est partagée aussi au serveur dans le restaurant gastronomique pour par exemple aligner je sais pas le programme de restauration avec l'animation sportive au quotidien, la connaissance de l'accueil que c'est par exemple je sais pas l'anniversaire d'un client qui vient ou d'un membre particulièrement important et qui soit communiqué à l'ensemble des personnes de nos services. Ça permet d'avoir en fait une personnalisation de l'expérience et une cohérence globale qui est impossible de répliquer lorsque tous les services sont fragmentés. Et c'est ça, en fait, dans ce genre de détails-là, qui fait que nos clients se sentent chez eux et qui fait que, par exemple, l'expérience qu'on peut avoir dans un hôtel 3 étoiles n'est pas le même que celui qu'on peut avoir dans un hôtel de luxe, dans les deux hôtels, on a effectivement un espace de restauration, une salle de sport. C'est juste que le lien avec les clients sont différents.
C'est noté, Romain. En tout cas, j'aurais bien compris qu'il n'y a pas la chambre, mais ça ressemblera à nos bureaux, en tout cas, et les bureaux que vous opérez ressembleront presque à un hôtel 4 étoiles. C'est à peu près ça l'idée. Merci, en tout cas, pour votre témoignage. Romain Potier, directeur général de Querc. Allez, c'est l'heure du débat du jour dans Les Experts de l'Immo.
Les Experts de l'Immo, le débat.
Et à mes côtés, Henri Buzicazo, président fondateur de l'Institut du Management des Services Immobiliers. Bonjour Henri.
Bonjour Marie.
Et Gaël Slimane, le président de Doxa. Bonjour Gaël.
Bonjour Marie.
Alors, je le disais en préambule, revoilà notre fameux baromètre donc au Doxa avec Nexity, BFM Business et Capital. Et donc, à chaque fois, on remet à jour quelques indicateurs clés. Mais comme j'ai pas envie qu'on perde trop de temps à revenir sur tous ceux qu'on connaît déjà, on va aller directement sur ce qui, moi, m'intéresse très égoïstement. D'abord, le premier axe qui me paraît essentiel, c'est qu'on est quasiment pile à un an de notre prochaine élection, la grande élection présidentielle. On n'arrête pas de dire à l'antenne de BFM Business que le sujet logement est un sujet capital pour les Français et donc les futurs électeurs. En témoigne donc votre nouvelle version de notre baromètre, là, clairement, il est capital ce sujet logement.
Il est capital, on n'y reviendra pas, mais on a réalisé dans les précédentes vagues et on a reposé cette fois-ci un certain nombre d'indicateurs qui montrent pourquoi il est capital. Donc j'y reviens pas. La conséquence, elle est sur la politique. On l'avait déjà mesuré, Marie, au moment municipales, où déjà les Français étaient une très large majorité à nous dire « Attention, les gars, ça va compter ce que vous nous direz dans vos programmes pour les municipales. » Là, sur la présidentielle, quand on leur pose la question de l'importance qu'aura le thème du logement dans les programmes des candidats, on a 70% des Français qui nous disent que ça comptera, qu'ils en tiendront compte de ces propositions que feront les candidats sur le sujet. Et c'est un sujet qui comptera de manière assez consensuelle, quel que soit le type d'agglomération dans lequel on vit, mais ce sera d'autant plus important que l'on vit dans des grandes villes et dans des villes où le sujet est en tension, et ça comptera aussi pour l'ensemble du spectre politique. Donc, s'il y a vraiment un sujet qui était en dehors des radars lors des dernières présidentielles, qui est cette question du logement, il n'aura pas l'intérêt à l'être cette fois-ci, parce que de toute façon, pour adresser la priorité des priorités bien connues des politiques, qui est la question du pouvoir d'achat, notre baromètre l'a bien montré, les Français considèrent que, dans ce domaine-là, le logement, c'est ce qui pèse le plus lourd.
Mais Gaëlle, vous prêchez une convaincue sur ce plateau, je me retourne vers Henri, moi j'ai l'impression que la responsabilité médiatique et politique, elle est immense là-dedans, c'est-à-dire que quand on demande aux Français, effectivement, le logement, c'est quand même ce qui nous coûte le plus cher, et on le redit dans baromètre, mensuellement, c'est ce qui pèse le plus dans notre pouvoir d'achat. Et pour autant, dans les gros médias mainstream, pour autant, les politiques eux-mêmes vont rarement sur ce sujet logement. Il n'y a pas de prise de conscience ?
Alors moi, je vois un progrès. C'est pas pour être agréable à la classe politique.
Un peu,
non. Oh non, non. Ça se sait un peu. Je dis ce que je pense. Moi, je vois un progrès aussi parce que j'y contribue modestement. Alors, je suis très attentif aux mètres de plus qu'on est arrivé à parcourir. Je vois dans les discours politiques, dans le discours aujourd'hui du Premier ministre, l'engagement avec un plan de relance qui est très complet. On en pense qu'on veut, mais on reconnaît que on n'a pas oublié quelques tiroirs de la commode que ce soit. Bon, donc ça, je vois qu'il y a un progrès, une prise de conscience, parce qu'effectivement l'opinion s'exprime très fort. Les spécialistes des enquêtes, des sondages accompagnent le mouvement. Ils analysent. Moi, je trouve que la presse en parle quand même de plus en plus. Alors, je vois une différence dans les élections présidentielles. Antérieure. Bien sûr, j'en ai été un observateur très très attentif. Chaque candidat a eu une mesure phare pour le logement. Je vais vous en citer
quelques-unes. Taxe d'habitation.
Suppression de la taxe d'habitation, c'était le président Macron. Encadrement des loyers, c'était le futur président Hollande, devenu président de la République. La France de propriétaires, c'était Nicolas Sarkozy. Voilà, trois présidents très
Et ce qui est dingue, c'est que beaucoup d'entre eux ont été élus là-dessus, d'ailleurs.
Très clairement, c'est l'une des mesures dans chacun des programmes qui ont compté pour faire élire. Et les Français le reconnaissent. Alors, typiquement, le dernier, la suppression d'un impôt lourd, la taxe d'habitation. Il y avait taxe et il y avait habitation. On dit on vous supprime les deux, on allège la vie de ceux qui habitent leur logement. Bon, mais c'était des gadgets. Et je crois que ce qu'attendent, moi, quand je lis attentivement les résultats de cette vague au Doxa, je ne vois pas ça. Je ne vois pas l'attente d'une mesure miracle, phare, qui va exciter tout le monde. Je vois le besoin d'un programme, d'une pensée sur le logement, très clairement, la résolution des problèmes que les Français connaissent, c'est pas tous les mêmes, mais en gros, un accès au logement difficile, ils s'attendent pas à ce que ce soit réglé avec du marketing politique.
Alors, voilà. vous dites quand même, réaction Gaëlle, parce qu'il y a quand même des mesures qui plébiscitent ces Français. Alors, c'est peut-être gadget, comme le dit Henri.
Tout à fait raison. Il y a tout à fait raison. On n'est plus sur une mesure, on n'agit plus une mesure pour avoir une mesure de plus dans son programme en cochant la case logement. En gros, c'était ça le sujet.
C'était ça.
Et je vous trouve très optimiste, messieurs, parce que quand même, je suis désolée, j'interromps Gaëlle, mais sur typiquement, on sait qu'il y a une grosse partie de la droite et de l'extrême droite qui veut revenir sur les obligations de rénovation énergétique. Ils en feront peut-être, un symbole pour leur future possible élection à la prochaine présidentielle. Et donc, typiquement, les interdictions de louer les passoires, est-ce qu'on pourrait pas en faire cette mesure gadget?
Alors,
s'ils ne font que ça, ça marchera pas.
Il y a deux choses. Il y a qu'est-ce qui a été fait autrefois, vous l'avez très justement rappelé, une mesure symbolique, mais prise isolément. C'est vraiment un îlot logement dans un océan de mesures, pour faire simple, sécurité, immigration, emploi autrefois. On voit que ça risque de revenir, mais c'était les grands sujets. Là, je vous donne juste deux chiffres de notre baromètre ce mois-ci qui le montrent. Les trois quarts des Français nous disent qu'il est difficile de se loger en France. Les trois quarts d'entre eux, et quand on est plus pauvre et quand on est plus jeune, ça l'est particulièrement. Et on a 90% des Français qui nous disent qu'ils ne veulent pas une mesure. Ils veulent que les politiques déroulent un projet, un programme, voilà, quelque chose, une plateforme, pour montrer comment ils vont mettre à disposition davantage de logements dans le pays. Donc, après, ce qu'en feront les politiques, ils ont l'info. N'est pas, vous avez raison, on voit de plus en plus de messages qui montrent que ça a pris de l'importance. Ils ont l'info, c'est un vrai sujet dont ils doivent se saisir. Le seul problème du logement, je l'ai déjà dit sur ce plateau pour être déplaisant avec les politiques, mais c'est que c'est pas, il n'y a pas de mesure gadget qui vous permettrait en un an ou deux ans ou trois ans de marquer des points. On est sur quelque chose de lourd, de fondamental, de durable. Donc si vous menez une politique en matière d'immobilier et de logement qui est réellement efficace, les effets ne se verront qu'au bout de 5 ans, 6 ans, 10 ans. Oui. Et donc, c'est plus difficile de marquer des points dans l'opinion au-delà de mesures symboliques. Mais je crois, moi comme Henri, que les Français seront attentifs à ça, que les politiques l'ont un peu à l'esprit. Alors après, c'est la logique du dernier kilomètre. C'est-à-dire que, est-ce que le logement sera l'enjeu majeur de la présidentielle ? Pas sûr. Est-ce qu'on parlera davantage de questions de logement dans les programmes des candidats cette fois-ci qu'il y a 5 ans, 10 ans ou 15 ans ? J'en ferai le pari de cela.
Bah, j'ose espérer, et puis d'autant qu'en plus, vous dites pas sûr, mais enfin, il y a des incidences, et on le voit aussi à travers le baromètre, de ce qui se passe à l'échelle internationale bien et sûr géopolitique sur notre accès à l'immobilier ou notre accès à la propriété, et notamment cette crainte des Français liée à la guerre au Moyen-Orient qui patine. Et donc là, quand même, on a 71% des Français qui disent qu'il y aura un impact négatif de cette guerre.
Ils craignent. Ouais. Alors, ils sont pas forcément experts, mais ils craignent.
Enfin, moi, je vote avec eux. Hein,
ils craignent que, effectivement, ça aide. Ça aura des conséquences négatives sur le marché de l'immobilier en France, dans notre pays. Et quand on leur demande quel type de conséquences négatives craignez-vous le plus, la première des conséquences, c'est l'impact sur leur pouvoir d'achat et de la hausse des autres dépenses du foyer. Et puis, il y a un impact qu'ils anticipent, qui est la hausse des taux. Et il faut voir une chose, c'est qu'on a été un tout petit peu plus loin encore. Les Français nous disent que les taux, ils deviendraient insupportables. Aujourd'hui, là où ils sont, autour de 3,5% pour un crédit sur 20 ans, ou bien entre 3,5 et 4. Donc on y est
de
presque.
De toute façon, voilà, ils sont là en train de nous dire que c'est déjà pas acceptable.
Les deux tiers des Français nous disent que le niveau actuel des taux n'est pas supportable ou qu'une légère hausse de 0,5% de plus le rendrait insupportable.
Non, mais ils sont lucides. Ils sont lucides. On va attendre la décision le 5 juin, je crois,
de la Banque Centrale Européenne.
Les analystes économiques, il y en a qui s'expriment ici, estiment qu'avant la fin de l'année, on aura deux ou trois vagues d'augmentation des taux. Et on va atteindre, d'ailleurs, le taux d'usure, on en reparlera. Et c'est déjà une partie des dossiers qui sont rejetés à cause
de ça. Alors, rapidement, quand même, à chaque fois, je fais du lexique. Le taux d'usure, je vous rappelle, c'est le taux maximal auquel les banques sont autorisées à prêter. C'est un taux tout compris, donc pas uniquement le taux de 3,5% de marché, mais j'ajoute tout le reste des frais,
toutes les assurances,
et l'assurance, etc.
Bien
et
sûr.
Puis les frais de courtage, etc.
Bien
et les frais de dossier. Et donc, si ce taux d'usure est trop bas et que les taux remontent trop vite en parallèle, et ça
cogne,
fait effet ciseau et en fait,
et
on ne peut pas vous accorder le crédit.
Et il est trimestriel, désormais, il faut de nouveau, on a connu ça il y a deux ans,
mensualisé.
Le rendre mensualisé pour suivre cette évolution rapide des taux. Donc, ils n'ont pas tort, il y a ces conséquences-là. Moi, je pense que des politiques, on attendra certainement pas le gadget, on l'a dit, et ceux qui seront tentés de le faire, que ce soit les partis extrêmes ou les autres, seront pas audibles. On entend bien aujourd'hui que tout s'est déréglé. Les Français ne sont pas des spécialistes de logement. Moi, je crois que oui, au fond. Bon, parce que le logement, c'est tellement quotidien. Si on connaît quelqu'un qui est locataire, on voit qu'il a du mal à avoir une location. Si on est accédant, on trouve que les mensualités sont élevées ou qu'on n'a pas le crédit. La transition énergétique, ben, on a du mal à la comprendre et à la suivre. Beaucoup de choses se sont déréglées, logement privé, logement social. Donc, face à ça, les Français se disent, sans être des grands spécialistes, il faut un programme, il faut s'attaquer à tout. Avec sans doute des tirs courts et des tirs longs. Le tir long, ben, c'est la durée du mandat du président de la République. Un deuxième, s'il ou elle est réélu. Et le tir court, c'est quand même l'antidouleur. Parce que l'antidouleur, aujourd'hui, c'est effectivement que des aides soient maintenues, Pour moi, ce sont les aides principales. Bien sûr qu'il faut qu'on en sabre des aides, parce qu'on n'a plus de sous. Mais sabrer une aide au logement, aujourd'hui, c'est mettre à la rue. Là, il y a un projet de réforme de regrouper toutes les aides, qui ferait perdre à 22% des allocataires. Oui, mais je le précise.
Ah bah, vous faites bien de le dire,
J'ai dit ce que j'en pensais, j'ai pas été le seul. Nous considérons, Conseil National de l'Habitat, par exemple, à la quasi-unanimité, que ce n'est pour le moins pas pertinent, et peut-être même qu'il faut l'enterrer, cette réforme. Elle ferait perdre à près d'un quart de ceux qui aujourd'hui touchent des aides, des dizaines d'euros par mois, jusqu'à 100, 120 euros. Et bien sûr, ce sont les tranches les plus fragiles qui seraient percutées. Bon. Voilà, ça c'est d'urgence. Demain, je suis président de la République, permettez-moi cette phrase, ça fait plaisir. Bon.
Mettez-le dans le scroll, Albon,
j'ai le droit, j'ai le droit, après tout. Bon. Ça, par exemple, je le sanctuarise. Je dis aujourd'hui, avec la hausse des carburants, avec tout qui va mal, protégeons, c'est l'urgence. Et puis, ce qui n'est pas de l'urgence, et les Français le savent, par exemple, l'aménagement du territoire. Dans le projet de loi... qu'a présenté Monsieur Le Cornu. Est-ce qu'il ira à son terme, d'ailleurs, parce que le temps est très court, là. Il y a, par exemple, l'Agence Nationale de Rénovation Urbaine, un troisième programme pour que 150 quartiers, villes, soient de nouveau rénovés. D'ailleurs, intéressant, ce projet de loi dit, mais ça touche aussi à la sécurité, à la lutte contre le narcotrafic.
Ça, je ne cesse de le dire. Hein,
oui, bien sûr. Et donc, tout ça, ça ira dit. Et bien sûr que l'aménagement du territoire, le réaménagement de certaines villes, C'est du temps long, mais il faut aussi le faire. Donc, moi, je pense qu'on va attendre une intelligence au logement de la part des partis et des candidats.
Mais on est d'accord là-dessus, il y a le temps long, il y a le temps court, et puis il y a des mesures clés. Et là-dessus aussi, Gaël, il y a eu quand même quelques... je ne vais pas parler de mesures gadgets, mais il y a quand même ce dispositif Jean Brun dont on nous a beaucoup parlé pour relancer l'offre locative. Là, on a sondé les Français là-dessus, qu'ils soient locataires ou propriétaires, ils y sont massivement favorable. Alors ça, c'est du temps court et long, puisque c'est aussi sur le neuf, l'ancien.
Les trois quarts des Français, 75% des Français nous disent qu'ils sont favorables au dispositif Jean Brun, qui a quand même l'ambition de construire 2 millions de logements d'ici 2030, en incitant à acheter pour pouvoir proposer du rendement locatif, inciter les propriétaires à le faire. On est à 76% chez les locataires et 74% chez les propriétaires. Donc, il y a une adhésion massive. Vous avez raison. Le temps court, le temps long. Mais ça signifie une chose. Parce que il y a le Jean Brun qui est plébiscité. Mais les dispositifs prévus, souhaités par le gouvernement pour assouplir les règles sur les interdictions des passoires thermiques, que vous évoquiez tout à l'heure, Marie, sont aussi soutenus tout en voyant bien. Parce que les gens sont capables, comme dirait Emmanuel Macron, de penser complexe. Donc le citoyen le voit bien, tout en voyant bien les inconvénients de tout cela.
Incroyable.
On liste un certain nombre d'inconvénients. Les Français nous disent, oui, je vois cet inconvénient. Mais à la fin, si ça permet quand même que davantage de logements, tellement on est en tension, puissent être mis sur le marché... Bah, tant pis, on y est favorable, même si ça aura des incidences négatives.
Pardonnez-moi, mais à chaque fois, dès qu'on parle là, ces derniers jours de cet assouplissement sur les passoires, qui était nécessaire pour tout un tas de propriétaires bailleurs qui n'étaient pas en capacité financière, technique, réglementaire, tout ce que vous voulez, de faire les travaux de rénovation, ça n'empêche que de vendre une mesure en disant à tout le monde mieux vaut avoir un toit tout pourri sur sa tête plutôt que de dormir sous les ponts, c'est quand même problématique quand même.
Non, mais ça dit...
la mesure. Mais pour autant, vous voyez, il y a de l'adhésion.
Non, mais ça dit quelque chose. Ça dit... Ça confirme tous les autres résultats qu'on voit depuis des mois, qui montrent que c'est plus qu'un problème. C'est un enjeu vital. D'ailleurs, dans le sondage, vous verrez, on teste les besoins, les classiques besoins de première nécessité de la pyramide de Maslow, se nourrir, se loger, se soigner. Et on voit que avoir un toit au-dessus de sa tête, c'est à la fois un des premiers besoins exprimés par les gens, et c'est un de ceux pour lesquels ils pensent qu'on a le plus de difficultés à le respecter, à le tenir, ce besoin-là. Donc, ça dit l'ampleur de cet enjeu logement chez nos concitoyens.
Oui, et puis, je parlais de réalpolitique tout à l'heure. Moi, je suis désolé, je suis évidemment acquis à l'idée qu'il faut avancer le plus vite possible sur la transition environnementale. Bon, et puis après, les locataires eux-mêmes disent, ma facture, elle va être un petit peu plus élevée. Il y a des débats sur est-ce que je vais négocier un loyer moindre. Non, mais il y a des débats là-dessus, bon, pour trouver un équilibre économique. Mais enfin, on va accepter que le logement soit moins vertueux pendant 3 ans, par exemple, en copropriété, c'est le futur projet de loi.
5 ans en copro, 3 ans en maison.
Non, c'est l'inverse.
Non, c'est ça.
Non.
Non, non, je vous assure, c'est 50 plus pour les copros et on va donner 50
bon,
plus. Je vous assure.
On va donner du temps. Alors, tombons d'accord. Et puis le texte est pas voté, mais on va donner un peu de temps et on peut s'en indigner. Mais non, on ne va pas s'en indigner. On va accepter d'être un peu moins bien logé. C'est pas un toit tout pourri. Je réfute. Je comprends. C'est de la provocation. Vous avez pas tort, Marie. Mais non, c'est pas le cas. Les Français comprennent aujourd'hui aussi qu'il faut du pragmatisme. On ne les a pas écoutés. La loi climat résilience, c'était un idéal. J'y ai souscrit. Je continue à y souscrire. Mais quand les politiques ont dit, comme un seul homme, et notamment le bloc central qui l'avait voté, non, non, on ne veut rien entendre, on ne touche pas au calendrier, on ne touche pas à ceci, on ne touche pas à cela, un parti d'extrême a dit effectivement, mais nous on vous écoute, on va déchirer la copie. Ben, la vérité, elle est entre les deux, mais clairement, elle a acculé, je le dis, elle a acculé ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir à ouvrir les oreilles, à dire, bon, les Français, ils ne peuvent pas, on va peut-être les écouter. La politique du logement doit écouter les Français.
Oui, mais je rappelle quand même, et je salue le travail de cette boîte qui s'appelle Argile, qui a calculé que pour un bien de même typologie qui est noté G au diagnostic de performance énergétique versus E, c'est 100 euros de plus par mois à la charge du locataire en dépenses énergétiques.
Oui, Marie,
c'est quand même pas neutre en réalité.
Non, c'est pas neutre. Mais je pense simplement que le bailleur, c'est aussi un acteur économique, et que le bailleur riche, c'est l'épaisseur du trait. Le bailleur, il est un peu plus riche que le locataire, ça c'est attesté. Mais enfin, s'il lui faut trouver, on a les chiffres là-dessus, 35-40 000 euros entre ce qui sera fait dans la copropriété et ce qu'il pourra faire lui-même dans l'appartement, eh bien, les bailleurs sont âgés, en moyenne, tout ça. Ça, c'est la réalité. Ça ne veut pas dire que, et dans le projet de loi, il faudra qu'il y ait...
une réduction de loyer équivalente.
Qu'il puisse y avoir des négociations, je suis pas du tout fermé à ça, mais non, mais très clairement. Et aussi, par exemple, des prêts collectifs. On a du mal à les mettre en place parce que la plupart des copropriétaires bailleurs, il leur faut cet amortisseur qui est le crédit. Bon, il y a de l'ingénierie à faire et de la bonne volonté aussi de la part des bailleurs, mais il y a une réalité. Et quand on n'arrive pas à quelque chose, on peut pas politiquement se cogner contre un mur. Donc les Français, je pense qu'ils sont entre les deux, ils sont exigeants sur le logement, ils vont l'être. Ceux qui n'auront que des gadgets à proposer seront écartés. Il faudra qu'il y ait un système de pensée.
Il est unstoppable, voilà. Henri. Il est unstoppable, ouais. Je dis ça parce qu'Alban, notre réalisateur, a fait partir la musique de la fin de l'émission.
Mais j'y crois et quand vous dites à Gaël ou à moi, vous y croyez optimiste, oui, puis j'ai envie de l'être. Et puis je vais pousser en mêlée.
Un dernier mot quand même, Gaël, après l'optimisme d'Henri.
Alors oui, un optimisme et une explication peut-être en deux chiffres. On a 67% des Français qui disent que cette décision sur les passoires thermiques, ça risque de porter préjudice aux locataires loin ses logements.
Ouais.
Mais on a 76% de ces mêmes Français qui nous disent oui, mais ça en mettra davantage, il y aura davantage de logements disponibles sur le marché. Donc à la fin, on en a 65% qui disent il faut le faire.
Et donc ça veut dire quoi? On va faire preuve de nuance? C'est ça l'idée?
Ça veut dire qu'il faut être
un peu nuance dans ce
monde. Il faut de la nuance dans ce monde de brut.
Mais voilà. Et ce sera le mot de la fin. Merci.
C'est en même temps,
mais je préfère la nuance. Merci Gaël Slimane, président d'Odoxa, et Henri Buzicazo, président fondateur de l'Institut du Management des Services Immobiliers. Merci d'avoir été avec nous. Je vous retrouve demain pour un nouvel épisode des Experts de l'Immo sur BFM Business.
Les Experts de l'Immo sur BFM Business.